Alors, merci d'être venu en si grand nombre. On a même un problème de place et je m'excuse au nom de l'idée fédérale, parce que je suis un des membres du conseil d'administration de l'idée fédérale, mais changer d'hôtel à la dernière minute, c'était pas facile. Alors, bienvenue. Et je vous rappelle que l'idée fédérale, c'est une organisation qui a été créée en 2009 à l'initiative d'André Pratt, et pour laquelle un certain nombre de personnes ont décidé de prêter leur temps et leur talent. Et elle réunit des membres. C'est une organisation qui est entièrement privée et non partisane, qui se penche sur les principes et les valeurs qui animent le fédéralisme, non seulement au Canada, et aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, où ces principes sont défendus ou sont inscrits dans divers systèmes politiques. Alors, jusqu'à présent, depuis 2009, on a fait une trentaine d'études et de bulletins sur des questions très diverses, des questions canadiennes ou québécoises ou internationales. Et cette organisation-là a besoin de vos dons. Nous sommes entièrement indépendants et non partisans, et nous ne prenons aucun argent des gouvernements ou des partis politiques, de façon à conserver cette indépendance. Donc, j'invite les personnes privées à faire preuve de générosité envers notre organisation, qu'on puisse continuer à faire notre travail. Alors, je vous demanderai maintenant d'accueillir votre table d'honneur qui va faire son entrée. Alors, merci beaucoup au nom des membres de la table d'honneur pour ces applaudissements et cet accueil plus que chaleureux. Merci. Je vais vous présenter à tour de rôle les membres de cette table d'honneur et dont certains se passent de présentation, bien sûr, mais quand même. Et je demanderai à chacune des personnes que je vais nommer de la table d'honneur de se lever au moment où je donnerai leur nom. Et je demanderai de retenir vos applaudissements pour la fin de l'énumération des membres de cette table. Alors, d'abord, je vous présente M. André Pratt, éditorialiste en chef de la presse et président de l'Idée fédérale. M. Philippe Couillard, chef du Parti libéral du Québec et chef de l'opposition officielle. Mme Marie-Bernard Meunier, ex-ambassadrice du Canada et gouverneur de l'Idée fédérale. M. Marc-André Blanchard, président du Conseil et chef de la direction de McCarthy-Tétrault. M. Blanchard est aussi le gendre de M. Claude Ryan. M. Jacques Lamarre, conseiller stratégique et administrateur d'entreprise et gouverneur de l'Idée fédérale. Madame Monique Ryan, fille de M. Claude Ryan, avocate, mère de deux ados et présentement étudiante à la maîtrise en travail social à l'Université de Toronto. Et également épouse de Marc-André Blanchard. Je vois que ça se sait. C'est la Saint-Valentin, on va. Oui. Monsieur John Zucchi, professeur au Centre Newman de l'Université McGill. Le Centre Newman, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais c'est un centre d'études catholiques de l'Université McGill qui a une présence sur ce campus de cette grande université depuis près de 100 ans. Madame Michèle Dionne, épouse de M. Charest, c'est la Saint-Valentin aussi, bénévole à la Croix-Rouge et auteur du livre « Mission ». M. Olivier Marcil, vice-principal relations externes, Université McGill. M. Raymond Royer, administrateur de société et gouverneur de l'idée fédérale. Et enfin, nos deux invités, M. Jean Charest, ancien premier ministre du Québec, associé chez McCarthy-Tétrault et président du Conseil des gouverneurs de l'idée fédérale. Et enfin, le très honorable Brian Mulroney, ancien premier ministre du Canada, associé principal Norton, Rose et Fulbright. Merci. Alors, je vais vous expliquer un peu le déroulement de cet événement. D'abord, il y aura le deuxième service du repas qui commencera bientôt, lorsque vous aurez terminé le premier service, bien sûr. Et je demanderai aux photographes et aux caméramans d'éviter de filmer pendant le service et pendant le repas. Et ensuite, j'inviterai... Avant que ce service commence, M. André Pratt, président de l'idée fédérale, à vous dire quelques mots. André.
Merci, Richard. Alors, juste brièvement, remercier d'abord les gens de l'Université McGill d'avoir organisé non seulement avec nous cet événement de ce midi, mais aussi tout le colloque qui se termine aujourd'hui. À l'occasion du 10e anniversaire du décès de M. Ryan. Ce fut un colloque très intéressant, très enrichissant, et je pense qu'il est une bonne façon de rendre hommage à l'héritage de M. Ryan. L'événement de ce midi est organisé donc en collaboration avec l'Université McGill, le Centre Newman et l'idée fédérale. L'Université McGill n'a pas besoin de présentation, évidemment, le Centre Newman non plus, mais peut-être un petit peu l'idée fédérale. L'idée fédérale a été créée il y a un peu plus de 3 ans maintenant, par des gens qui étaient convaincus que peu importe le contexte politique dans lequel nous vivons, il faut redonner au fédéralisme comme système de valeurs et de principes une place plus grande dans les débats politiques au Québec. Donc, l'idée fédérale, c'est un think tank, si vous voulez, un groupe de réflexion non partisan, mais qui défend la perspective fédéraliste. Après 3 ans, nous sommes vraiment à une croisée des chemins, c'est-à-dire que nous commençons à embaucher un personnel à temps plein et non seulement des bénévoles. Nous organisons de plus en plus d'événements comme celui-ci, qui remporte beaucoup de succès. On aurait pu avoir beaucoup plus de monde aujourd'hui si on avait trouvé une plus grande salle. Et je dirais qu'une des choses qui nous tient le plus à cœur, c'est la création qui sera annoncée bientôt de l'Observatoire du fédéralisme dans le monde, sous l'égide du CIRIUM de l'Université de Montréal. C'est la première fois dans l'histoire des universités québécoises que sera créé un organisme de recherche qui se préoccupe uniquement du fédéralisme. C'est vraiment, je pense, une grande réussite. Pour continuer, évidemment, on a besoin de votre appui, de votre présence à nos événements, de votre appui financier. Si jamais ça vous dit de nous donner un coup de pouce, il y a des dépliants et vous pouvez aussi aller sur le site web de l'idée fédérale, l'idéefédérale.ca. Alors, bon appétit. Merci de votre présence, surtout à nos invités d'honneur, Jean Charest et M. Brian Mulroney. Et tantôt, on commence une conversation au sujet de M. Ryan. Bon appétit.
Merci beaucoup, André. Maintenant, je réitère ma demande aux photographes et aux caméramans d'éviter de filmer pendant le repas. Enfin, je vous dirais une chose avant de l'oublier. Par rapport au déroulement de l'événement plus tard, de la conversation entre M. Mulroney, Charest et Pratt, vous avez un bloc-notes par table avec un crayon. ceux qui auraient des questions à adresser à M. Mulroney ou M. Charest peuvent l'écrire et on ramassera les bloc-notes tout à l'heure et on passera les questions à André Pratt. Alors, merci et bon appétit à tout le monde. Avant de commencer cette conversation, j'aimerais inviter quelqu'un qui est responsable de l'organisation Tricolore avec nous. Il s'agit d'Olivier Marcine, qui est vice-principal aux relations externes de l'Université McGill, qui est lui-même un esprit brillant, qui est auteur d'un livre sur Claude Ryan, qu'il a bien connu. Alors, Olivier, je t'invite à prendre ma place.
Merci, merci, Richard. D'ailleurs, le livre est un vrai best-seller. C'est ma mère qui les a tous achetés. Alors, si vous en voulez des copies, vous me ferez signe. J'en ai quelques caisses. Alors, messieurs les premiers ministres, Monsieur Pratt, président de l'Idée fédérale, distingués invités de la table d'honneur, mes chers collègues de l'Université McGill et du Centre Newman, membres de la famille Ryan, merci d'être ici, chers convives. C'est un grand honneur et je vous souhaite à mon tour la bienvenue à ce déjeuner causerie qui a été organisé par l'Idée fédérale en collaboration avec l'Université McGill et le Centre Newman. Pour McGill et le Centre Newman, le symposium sur M. Ryan et son héritage est un des mariages les plus heureux. La relation de M. Ryan avec McGill et le Centre Newman remonte aux années 1990. M. Ryan s'est impliqué dans les activités intellectuelles du Centre Newman. Et pour la petite histoire, le nom Newman vient du nom du cardinal anglais John Henry Newman, qui est un grand intellectuel du 19e siècle qui a eu une influence majeure sur la pensée de M. Ryan. Et c'est pour une des raisons pour laquelle M. Ryan a toujours été très attaché au Centre Newman de McGill. Pour célébrer la contribution de M. Ryan au Québec et au Canada, l'Université McGill lui a décerné un doctorat honoris causa en droit en 1999. Et en 2000, nous avons accueilli M. Ryan dans les rangs de nos professeurs. Il a conçu un cours sur la pensée sociale catholique qui est aujourd'hui donné par Anne Léhi, qui a été notre ambassadrice du Canada au Vatican. Et c'est un cours qui est donné dans le cadre du programme d'études catholiques. Il a donné ce cours jusqu'en 2003. À l'aube de sa mort, M. Ryan a fait don de sa bibliothèque personnelle au Centre Newman, plus de 1500 volumes, et je suis très heureux d'annoncer qu'ils sont désormais accessibles au public. Vous pouvez communiquer avec le Centre Newman pour ça. Et en reconnaissance de son estime personnelle pour le Centre Newman, la famille Ryan, gracieusement légué un grand nombre de photographies et d'importants prix et reconnaissances universitaires et nationales de M. Ryan. C'est donc riche de cet engagement mutuel que nous avons le grand plaisir de célébrer Claude Ryan à l'occasion du 10e anniversaire de son décès. Et comme André l'a mentionné un peu plus tôt, nous avons tenu depuis hier 6 ateliers sur différents volets de la vie professionnelle et personnelle de M. Ryan. Nous avons eu l'occasion de traiter de l'éducation, le défi de la foi dans la société laïque, sa pensée sociale catholique, de l'homme lui-même, le journaliste, le politicien et aujourd'hui, en quelque sorte, le clou de ce symposium, le fédéralisme et le statut politique du Québec. Je tiens à remercier les quelques 20 panélistes qui ont couvert toute la richesse des multiples facettes de M. Ryan. Alors, comme je le disais, nous ne pouvons rêver d'une meilleure finale pour clôturer un symposium riche en discussions et débats qu'avec ce déjeuner causerie. Nous avons l'honneur aujourd'hui de compter sur 2 prestigieux invités, messieurs les premiers ministres Brian Mulroney et Jean Charest. Et sans plus attendre, j'ai le privilège de céder la parole à nos invités. Alors, je vous cède le plancher, messieurs. Merci.
Merci, Olivier. Messieurs, on a beaucoup dit de Claude Ryan. La carrière est celle d'abord d'un grand journaliste et ensuite celui d'un homme politique important. Monsieur Mulroney, je commencerai avec vous. Peut-être on a dit que Monsieur Ryan avait, même lorsqu'il était éditorialiste, beaucoup d'influence, que les gens voulaient absolument à chaque jour savoir ce que Claude Ryan avait écrit. Étant moi-même éditorialiste et n'ayant aucune influence, je me dis, ça doit pas être vrai. Est-ce que vraiment Monsieur Ryan, à l'époque, avait une influence aussi grande qu'on l'a dit?
Oui.
Oui.
Mais il s'agit de choisir ton journal. Le Québec, la quasi-totalité des Québécois qui qui avait une influence quelconque se demandait le matin, « As-tu vu ce que Ryan a écrit ce matin? » C'était tout à fait exceptionnel. Il s'agissait d'un homme exceptionnel également. Il y avait, je pense, je suis allé à l'Université Laval avec Yvon Marcoux, deux grands Canadiens, à l'automne de 1960, et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Jean Lesage pour la première fois. Et j'ai eu le privilège, depuis, de connaître tous les premiers ministres du Québec, au nombre de 12, je pense. Des grands aussi. Et peut-être un 13e, who knows? N'oublie jamais, Philippe, quelque chose que j'ai appris du père de Jean Charest. Grâce à qui? Grâce à l'Union nationale. Avec ça, un gars est élu. Oh, mais toujours est-il qu'il y avait ces 12 premiers ministres-là qui ont eu une influence énorme, bien sûr, sur le Québec et sur la pensée, mais à cause de la situation particulière du Québec, l'évolution spéciale de notre société, il y avait, d'après moi, des gens qui n'étaient pas premiers ministres, mais qui ont eu une influence énorme sur la société. Moi, je les appelais les joueurs. Et dans ça, on avait Claude Castonguay, Paul Desmarais, Pierre Péladeau, Jacques Parizeau, quand il était conseiller et professeur, il avait une influence énorme. Et ces personnages-là, véhiculaient les idées et l'influence auprès des autres Québécois. Mais celui qui avait vraiment l'autorité morale et l'influence, c'était Claude Ryan. J'ai jamais vu ça ailleurs au Canada ou aux États-Unis, une province ou un État, un pays où un individu avait autant d'influence. Et là, je vous parle de mes années à moi, de 60 à aujourd'hui. J'espère demain. Ça, là, c'est moins garanti. Mais Claude Ryan était un homme exceptionnel. Il n'y en a jamais eu un deuxième comme lui. Ça, c'est la force de son autorité morale auprès de tous les Québécois. Je voudrais simplement dire un mot à son sujet avant qu'on parle du fond de sa pensée et ses grandes réalisations. Je vois des commentaires de lui à son sujet... L'effet que Ryan était un homme austère et tout ça. C'est pas vrai, ça. C'est vrai qu'il était austère, mais il était drôle, il était sympathique. Une fois après qu'il eut quitté la politique, et moi, Jean était chef du Parti libéral, il s'est passé un incident entre nous que j'avais relaté à Ryan, que je voyais souvent, que j'aimais beaucoup personnellement. C'est un gars formidable. D'ailleurs, c'est un de ses mots favoris, ça. Formidable. Il adorait ce mot-là. Il était formidable. Mais toujours est-il qu'on s'assoit pour prendre le lunch ensemble, puis avant de s'asseoir, il disait, relate l'incident avec Charest. Alors, il trouvait ça bon, alors il a fallu que chaque fois que je le voyais, il était pas comme Ronald Reagan là-dedans. Tell me that one, Brian. That's a good one. Alors, je lui relate l'incident qui s'est passé. Après la venue de Jean au Québec, pour prendre la chefferie du Parti libéral, et je le vois dans un cocktail bénéfice un soir à Westmount. Et en le voyant, je dis, Jean, il faut que je te dise ceci. You could not imagine how surprised I was. To see myself signing a check for $3,000 to the Liberal Party. Et Charest me répond, you cannot imagine how surprised I was to be signing a letter of thanks. Alors, Ryan adorait ce genre de commentaire. Il était lui-même... ses moments, bien sûr, sympathiques, ben, toujours sympathiques, mais drôles. Il aimait cette dimension naturelle et normale de la vie. Et en perdant Claude Ryan, il y a 10 ans, on a perdu un des plus grands Québécois de l'histoire moderne du Québec.
Monsieur Charest, vous avez, lorsque vous étiez chef du parti, demandé à M. Ryan d'écrire un livre qui est une sorte de classique, finalement, qui s'appelle « Les valeurs libérales et le Québec moderne ». Je l'ai relu encore en fin de semaine. C'est vraiment un ouvrage remarquable. Qu'est-ce qui vous avait amené à confier cette mission-là à Claude Ryan, qui avait quitté la politique depuis plusieurs années à ce moment-là?
Le premier contact que j'ai eu avec M. Ryan, vraiment un contact là, de fond, c'est lorsque j'étais ministre fédéral de la jeunesse pour vous, Monsieur le Premier ministre, et vous m'aviez confié la responsabilité de faire une politique sur le décrochage scolaire, et j'avais rencontré M. Ryan comme ministre, il était responsable de l'éducation à l'époque. J'en garde un bon souvenir. Je veux revenir sur le propos de Brian, parce que Monsieur Ryan était un homme très chaleureux. Il y a des gens qui pensent encore aujourd'hui que il était très chaleureux, généreux, très facilement accessible. Et les événements que j'ai faits avec lui, dans les cadres, dans les instances du parti, m'impressionnaient à chaque fois parce qu'il était beaucoup sollicité, puis il aimait beaucoup le contact avec les gens. Lorsque je deviens chef, il y a 2 épisodes que je retiens. Un, c'est que mon prédécesseur, Daniel Johnson, le premier ministre Johnson, lui avait demandé de faire une réflexion sur l'enjeu de la pauvreté au Québec. Alors là, il nous avait pondu, typique de M. Ryan, une brique puis une réflexion sur tous les enjeux. Et d'ailleurs, il y a plusieurs de ces politiques-là qui ont été mises en œuvre par mon gouvernement en 2003. Et on s'était vu à l'été 98 à North Attleigh. Il était venu chez moi. On avait travaillé à partir de la maison pendant 2 ou 3 jours. Et ça, ça a été un premier contact dont je garde un très bon souvenir parce qu'il avait été très ouvert et très généreux. Arrive ensuite un épisode en 2002, et je suis toujours dans l'opposition. Vous savez comment c'est facile dans l'opposition, n'est-ce pas, Philippe? Surtout pour un chef libéral. On vous voit jamais, vous êtes où, vous êtes pas. Et moi, je m'en suis jamais fait parce que j'ai perdu tous les sondages, mais j'étais meilleur dans le temps des élections. Ça va être la même chose pour Philippe aussi. C'est désireux. Mais il y a donc un épisode d'un passage plus difficile. Arrive le printemps 2004, il y a 4 élections partielles. Et dans les 4 élections partielles, l'ADQ les gagne haut la main. À Laval, Berthier, je pense qu'il y avait la Côte-Nord et il y avait le Lac-Saint-Jean. Et à ce moment-là, moi, je faisais campagne à fond. Je me rappelle être allé au Lac-Saint-Jean, puis j'ai appelé mon organisateur parce que sur le terrain, je trouvais que c'était très bon. J'avais dit, penses-tu qu'on a des chances au Lac-Saint-Jean? Au téléphone, il y a un long silence au bout de l'allée. Il me dit, chef, il m'a dit une affaire, là. Si on gagne ce comté-là ou à la partielle, la prochaine élection, on ramasse des comtés au Nouveau-Brunswick. Arrive le soir des partiels, c'est une déconfiture, on est à la veille de l'élection générale, et là, il y a un questionnement sur le Parti libéral du Québec, sur moi, et j'avais demandé à M. Ryan de nous faire une réflexion sur le libéralisme et la définition du parti. On est qui, nous? Nous sommes qui, nous, les libéraux du Québec? Il a écrit le livre que vous aviez dans les mains il y a 2 secondes, qui est aujourd'hui une référence, pas uniquement pour les libéraux, mais pour tous ceux qui s'intéressent à la politique, et sur les valeurs libérales. Et ensuite, il est venu livrer ce travail-là lors d'un conseil général, et ça a été remarquable, et depuis ce temps-là. Alors, c'était ce que M. Ryan, comme ancien chef, pouvait contribuer, et à mon endroit, il a été, mais d'une générosité, d'une très, très grande générosité dans tout ce que nous avions entrepris. Et il n'y a que lui qui pouvait faire une contribution comme celle-là.
C'est intéressant, dans sa vie politique, évidemment, un moment très fort, c'était le référendum de 1980. Dans votre autobiographie, M. Mulroney, vous dites que c'est à tort qu'on a attribué
un vrai best-seller.
Hein? Oui, un best-seller. Un peu gros, par exemple. Ouais. Un petit peu gros.
Il y aurait des copies en vente.
Et vous dites là-dedans qu'on a minimisé l'importance du rôle que M. Ryan a joué en 80. On disait c'est le discours de Trudeau, le fameux discours de Trudeau à Verdun. Vous dites non, M. Ryan a joué un rôle vraiment important pour le comité du non à l'époque.
Très important. Il a présidé le comité du non. Et c'est lui qui a donné la vision pour notre campagne électorale à ce moment-là, en 80, pour les valeurs qu'on défendait, l'avenir du Canada vu par des Québécois fédéralistes, et le travail d'organisation et d'inspiration sur le terrain. Oui, mais il a fait un travail de géant. Et là, à un moment donné, M. Trudeau et l'élection, le référendum, c'est au mois de mai. M. Clark est premier ministre, il est défait. Élection générale, M. Trudeau arrive dans l'élection du mois de février, 18 février, prend le pouvoir au mois de mars, etc. Et là, quelques semaines après, il y a le discours au centre Paul Sauvé. Oui, mais entre-temps, pendant deux ans et demi, Claude Ryan avait fait un travail extraordinaire sur le terrain, puis avec les troupes. Et lorsque tout le monde disait, oui, mais c'est le discours de 20 minutes de M. Trudeau, j'étais là, c'était un bon discours, même un très bon discours. Mais c'est pas ça qui a changé quoi que ce soit. D'après moi, le changement, ça avait été, ça a eu un impact, il n'y a pas de doute. Mais c'est les bases jetées par Claude Ryan et le leadership solide qu'il a donné tout le long de l'exercice. Ça n'a pas été reconnu. Puis là, vous allez me trouver qu'un crackpot pas mal, mais je vais vous dire quelque chose. Un autre qui n'a pas été reconnu pour son travail, c'est Jean Chrétien. Chrétien représentait le fédéral sur le comité de Ryan. Et lui aussi, il a fait un travail à Baie-Comeau, puis à Saint-Louis-d'Or, et un peu partout à travers le Québec, mais c'est surtout M. Ryan qui était le dirigeant de tout ça. Et lorsque les journaux, surtout de Toronto, y ont passé, puis ont donné leur aperçu, leur appréciation de ça, tout s'est passé ce soir-là au centre Paul Sauvé. Alors, dans mes mémoires, effectivement, j'ai dit, c'est pas vrai. La réalité, c'est que Claude Ryan était un géant dans la campagne de 80, et il méritait énormément, il méritait sûrement plus de crédit qu'il a reçu.
Monsieur Charest, vous avez dirigé... Vous avez dirigé le Parti libéral. On a dit à l'époque, et je pense on pense encore, que M. Ryan a transformé le Parti libéral en fait un parti plus démocratique, etc. Vous avez été témoin, dans le fond, de son héritage au sein du Parti libéral.
Je suis un héritier du travail qu'il avait fait à ce moment-là. D'ailleurs, à l'époque, je suis à Sherbrooke, c'est en 1978, je suis étudiant à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, puis je me rappelle avoir été à l'Assemblée de mise en candidature, l'Assemblée des choix de délégués à Sherbrooke à ce moment-là, comme observateur, parce que j'étais pas un membre du Parti libéral du Québec. Et je me rappelle très bien l'effervescence avec l'arrivée de M. Ryan, qui est venu faire quoi? Il est venu renouveler le capital intellectuel du Parti libéral du Québec. Il est venu redonner au Parti libéral du Québec une crédibilité sur les questions d'intégrité, parce qu'à ce moment-là, le Parti libéral avait été durement critiqué à la campagne de 76, injustement, soit dit en passant. C'est intéressant de voir des fois comment l'histoire se répète, là, injustement. Non, mais ça vaut la peine parce que les gens répètent les mêmes stratégies. Et Claude Ryan revient. Monsieur Ryan a soulevé une chose qui est très importante, qui est méconnue en politique. Pour les observateurs, les gens qui suivent pas ça, ont l'impression que tout se passe le soir de l'élection, que tout se passe le soir d'un débat. Ça me fait penser à l'histoire du gars, l'acteur, qui un jour avait reçu un Oscar, puis on lui avait demandé « How does it feel to be an overnight success? » Sa réponse, c'est « I worked all my life to be an overnight success. » Monsieur Ryan avait mobilisé les fédéralistes. Parce qu'il faut pas non plus perdre de vue que Monsieur Ryan est celui qui a vécu la période où le chef du Parti libéral du Québec est devenu également le chef d'une cohorte plus importante, celui des fédéralistes du Québec. Alors là, l'élection du Parti québécois polarise le Québec en deux grands camps, à l'intérieur duquel se trouvent des tendances. Et Claude Ryan est celui qui vit cette transition alors qu'il devient le chef des forces fédéralistes au Québec, incluant toutes les tendances. Et c'est lui qui mobilise l'organisation, les idées, le livre beige qui a été le fondement de la réflexion des fédéralistes pendant le référendum jusqu'en 1980. Alors, c'est pas vrai que tout se passe un seul soir. Vous avez raison de dire, c'est pas un discours. Et tous ceux qui ont vécu des campagnes électorales le savent, ça. C'est frustrant quand on arrive le soir de l'élection, on se fait dire, ben, ça s'est passé dans les deux derniers jours, je regrette. S'il y a des choses qui se sont bien passées, c'est parce qu'on s'est préparé pendant 3 ans, 2 ans pour arriver à un résultat.
Même les grands discours de Charest puis de moi.
Pas d'effet.
Pas eu juste cet effet-là.
Vous avez parlé, M. Charest, du livre beige. Peut-être que les plus jeunes ne s'en souviennent pas, mais c'est un document qui était important. M. Ryan a passé, dans le fond, sa carrière et de journaliste et de politicien à essayer de définir un Canada qui serait changé un peu plus pour être, je dirais, pour mieux connecté avec le Québec. Est-ce que dans les dernières années, il était déçu de voir que toutes les tentatives n'avaient pas réussi? Est-ce qu'il acceptait que, comme on le dit souvent, le fruit n'est pas mûr? Est-ce qu'il y avait une frustration chez lui à cause de ça ou il l'acceptait tout simplement?
Je pense que Claude Ryan, la philosophie de Claude Ryan, a connu fédéraliste, a connu son apogée avec Meech. Ça reflétait les valeurs et les désirs de Ryan pour le Québec et le Canada. Le Québec comme société distincte, etc. Je ne veux pas faire le diagnostic de Meech aujourd'hui, mais Meech reflétait la pensée générale de Claude Ryan. C'était une ouverture, un fédéralisme ouvert, généreux, qui respectait l'intégrité et la nature spéciale, spécifique du Québec et du volet francophone. Du Canada. Et il est en faveur de ça, parce que ça reflétait quand même les valeurs de sa vie, les luttes de sa vie. Il était profondément déçu, comme plusieurs d'entre nous, quand ce qui est arrivé s'est passé à Terre-Neuve. Mais il a continué son travail de pèlerin pour le fédéralisme auprès des autres provinces. D'ailleurs, je peux vous dire, en retournant dans ces années-là, Claude Ryan était également un succès ou un mariage ou quoi que ce soit, ça se fait au moins à deux. Hein? Alors, il y avait le Québec, il y avait le Canada anglais. L'interlocuteur privilégié auprès des Canadiens de langue anglaise et d'autres provinces, ce n'était pas un ministre quelconque ou un premier ministre, c'était Claude Ryan. Ryan s'en allait au Manitoba, en Colombie-Britannique, Nouvelle-Écosse. Et puis, je l'ai entendu souvent, « Well, Claude Ryan was here. And he said such and such a thing. And we're going to support it because of what he says. We believe this guy. » Et évidemment, je pense que ça explique un peu la déception de plusieurs également, parce que il a lutté pour ça durant la campagne référendaire. Et le lendemain, on a vu un projet différent des rêves de Ryan. Et ça a été blessant pour lui.
C'est intéressant, par exemple, que quand on revoit, bien avant Meech, le livre beige, à quel point, à cette époque-là, les Québécois fédéralistes croyaient profondément à la possibilité de modifier, même par exemple, le Sénat de façon fondamentale. Oui, maintenant, ça s'est complètement perdu. Est-ce qu'il est envisageable que, dans un contexte particulier, on revienne à ces projets de réforme ambitieuses?
Le contexte le permettra un jour. Moi, j'en suis profondément convaincu. Entre-temps, le fédéralisme tel que nous le vivons au Canada continue d'être un fédéralisme qui évolue puis qui change. Et on a fait quoi depuis ce temps-là? Et M. Ryan était de cet avis-là. On a continué à faire des changements à l'intérieur du cadre fédéral sans être obligé à chaque fois d'amender la Constitution. C'est pas vrai que le pays arrête d'évoluer parce qu'on n'amende pas la Constitution. On veut, on le souhaite. Et les exemples, ben c'est quoi? M. Ryan, une des idées clés, maîtresse de M. Ryan sur la dualité canadienne, lorsqu'il se comparait à la pensée de Pierre Trudeau, il disait, nous, tous les deux, on est d'accord sur l'élément de dualité. Sauf que M. Trudeau, lui, une fois qu'on règle la question des libertés individuelles, ce avec quoi M. Ryan est en total accord, en passant. Toute la question du libéralisme qui définit ce que c'est le Parti libéral du Québec, qui le différencie des autres partis, c'est-à-dire une société qui se construit sur la force des libertés individuelles d'abord, rattachée à une société à l'intérieur duquel on vit. M. Ryan le voyait comme ça. Maintenant, dans la pensée de M. Trudeau, M. Ryan l'écrit après le rapatriement, une fois qu'on a réglé cette question-là, les provinces sont les mêmes, sont sur le même pied d'égalité. Or, la distinction de Claude Ryan est la suivante, il disait non, le Québec, c'est plus que ça. C'est la seule société francophone en Amérique du Nord. C'est une société distincte. Il emploie le terme « société distincte » dans ses écrits en 1982.
Dans ses éditoriaux, très loin, on trouve cette expression-là.
Il emploie, le mot « société distincte » n'est pas apparu de nulle part. Là. Il emploie, nous sommes une société distincte, il le dit. Et donc, là où il fait un pas de plus que M. Trudeau n'a jamais accepté de faire, c'est de dire, nous devons reconnaître au Québec les pouvoirs, les instruments spécifiques qui sont nécessaires à son épanouissement. C'est là où ils se distinguent tous les deux. Maintenant, depuis, est-ce que c'est possible d'arriver à des changements? Le Québec a été reconnu comme nation. Le Québec a réussi à faire reconnaître le fédéralisme asymétrique et à le faire signer dans les textes par les premiers ministres dans une entente sur la santé. Le Québec a réussi à obtenir une place à la délégation canadienne à l'UNESCO. On est allé aussi loin qu'il était possible d'aller dans les cadres de l'UNESCO pour avoir une place du Québec à l'intérieur de ça. Sur le plan international, le Québec est allé très loin. C'est nous qui avons proposé l'entente Canada-Europe. Tout ça à l'intérieur du cadre fédéral. Alors, c'est des choses, je pense, qui font la démonstration que le cadre fédéral est suffisamment souple pour que le pays évolue dans le sens des intérêts du Québec et du Canada, sans, par ailleurs, qu'on soit toujours obligé d'amender la Constitution.
Oui, dans le même sens, effectivement, je souligne que le traité Canada-Europe dans le commerce international. Ça a commencé avec Jean Charest, quand il était premier ministre du Québec. Pas commencé au fédéral, là. C'est lui qui a poussé ça, puis à un moment donné, les gars ont sauté dans... Comment on dit avec moi, ils ont sauté dans le char. Hein? Et puis le char allait dans la bonne direction. Alors, à un moment donné, ils ont pris le volant. Mais c'est Jean qui a commencé ça, comme d'ailleurs... et Ryan l'avait applaudi, on avait trouvé une formule contre la même attitude en 1985 pour qui permettait de mettre un terme à cette guerre froide entre Paris, Ottawa et Québec, puis on a créé le sommet de la francophonie. Et Jean était avec moi quand on l'avait fait avec François Mitterrand, et puis l'argument contre. Et puis c'est ça que Ryan, là où Ryan est entré dans la bataille. L'argument contre par les fédéralistes endurcis, c'était les têtes carrées, c'était que oui, mais on peut pas truster le Québec au niveau international. Ils vont être dans les conférences internationales, puis ils vont faire toutes sortes de conneries, etc. Ils vont gêner le Canada. Alors, contrairement à ça, ça fait quoi, 25 ans que ça fonctionne? Ans. Et puis, ça fonctionne de façon très honorable pour le Québec et le Canada, et pour la francophonie internationale.
Je voudrais, si vous permettez, citer rapidement une phrase qu'on trouve dans le livre sur les valeurs libérales écrit par M. Ryan. Il dit qu'il s'agisse d'un projet de loi ou de règlement ou d'un programme gouvernemental, le premier souci d'un esprit libéral, libéral pas au sens partisan, cette fois-ci M. Mulroney, libéral dans le sens philosophique. Donc, le premier souci d'un esprit libéral est de...
Remarquez ma belle cravate.
Oui, bien choisi.
Tu ne l'as pas remarqué, alors non, je te le montre.
C'est vrai.
J'ai porté ça, je l'ai acheté pour l'occasion. Alors moi, je fais ça, hein, par politesse et pour être gentil, etc. Puis je regarde, mon ami Charest, une cravate bleue. Voyons donc.
Je sais pas...
Et gris.
Alors, le premier souci d'un esprit libéral est de s'assurer qu'il n'entraînera pas de restrictions injustifiées aux libertés individuelles. Toute limitation des libertés, pour être acceptable au libéral, doit être justifiée par un bien supérieur, lequel doit être établi de manière concluante. En lisant ça, on peut pas ne pas penser au projet de charte des valeurs. Olivier Marcille a écrit dans la presse il y a quelques jours, essayant de percevoir comment M. Ryan aurait perçu ce projet. Qu'en pensez-vous?
D'abord, M. Ryan, c'était un homme rigoureux. Ce qu'il a écrit, là, ça vaut la peine de reprendre. Et il part de la prémisse que nous, les libéraux, et nous, les Québécois, parce que je pense que c'est vrai pour l'ensemble des Québécois, nous voulons vivre dans une société qui nous permet de jouir de la plus grande liberté possible. Bon. Avant qu'un gouvernement ou un législateur pose un geste qui vient restreindre ces libertés, peu importe le contexte ou la loi, la question que va se poser un libéral élu sur n'importe quel, c'est est-ce que c'est justifié? Il y a des circonstances qui peuvent justifier la restriction. Un bon exemple de ça, c'est le débat sur la langue au Québec. Sur la langue au Québec, il y a des restrictions. Il y a un consensus qui s'est développé au fil des ans. Alors, c'est important parce que M. Ryan, dans le livre aussi, André prend la peine de dire que tout ça n'est pas appliqué bêtement. Tout ça est en lien avec la réalité et d'une société. Hein? Les droits et libertés ne sont pas appliqués dans l'abstrait. C'est en vertu de cette réalité. Alors, donc, il fait un argument qui me semble extrêmement important. Avant de restreindre, il faut faire la démonstration que c'est justifié. Et tout citoyen raisonnable a raison de dire à son législateur, « Tu veux restreindre mes libertés? Fais-moi la démonstration qu'il y a un problème, là, il y a un enjeu qui justifie que tu m'enlèves une liberté. » Posons-nous la question dans le contexte suivant. Le revers de la médaille et le pire des scénarios, c'est quand on fait des lois fondées sur la peur de l'autre. Quand on fait des lois fondées sur l'ignorance. Quand on fait des lois qui flattent les préjugés des gens. Quand on va creuser les préjugés des gens. Et parce que ça, c'est le dénominateur commun le plus bas. Et après ça, ben, tirez vos propres conclusions.
Monsieur Maroney.
C'est difficile d'ajouter quoi que ce soit aux commentaires de Jean. Il reflète très, très bien sa pensée. C'est difficile de dire exactement ce que M. Untel ferait aujourd'hui, 10 ou 20 ans après. Mais je me souviens d'un colloque où j'ai participé avec Claude, et puis à Toronto, je pense. Puis je me souviens, et là, I'm paraphrasing, mais je pense qu'en réponse à une question qui portait sur les valeurs, mais pas la charte, bien sûr, mais les valeurs, c'est I want to live in a Quebec and a Canada that is free from discrimination of any kind, religious, social, political, and which is based entirely on liberty and freedom. And I want Quebec to be respected for what it is within Canada on those principles as a distinct society contributing to the well-being of its citizens and contributing to the greatness of Canada. That's a paraphrase, mais c'était largement ça qu'il disait. Donc, c'est la liberté individuelle, la protection des droits de nos citoyens, que Jean a si bien expliqué, et, si vous me permettez, qu'il a si bien défendu quand il était le premier ministre du Québec.
Je pose la question parce que je me souviens qu'à l'époque, M. Ryan, comme éditorialiste, avait beaucoup combattu la loi 101, et ensuite la loi 101, parce qu'il trouvait justement qu'elle limitait des droits, était injuste pour la minorité anglophone. Et par la suite, il a changé d'idée, c'est-à-dire qu'il a accepté l'idée que finalement cette loi-là était nécessaire. Donc, il était prêt quand même à concevoir que dans certaines circonstances, les droits peuvent être limités. Dans le débat actuel, c'est ce que certains disent.
Oui, mais à ce moment-là, quand il a changé son fusil d'épaule un peu, la loi 101 avait été combattue devant les tribunaux avec des changements importants apportés par la société, par M. Lévesque lui-même, et par certaines décisions de la Cour suprême du Canada et la Cour d'appel du Québec. Alors, moi, c'est un réaliste, Ryan. On ne parle pas de... Tu sais, les gens parlaient de lui comme le pape. Et, tu sais, comme l'homme parfait. La réalité, c'est que la perfection n'existe pas dans la politique. À l'exception de Charest et moi, c'est pas... Alors, Ryan, tout en étant impressionnant, il n'était pas parfait, puis c'était pas le pape. C'est un homme... Écoute, Parfait. C'est un Irlandais, alors. alors, mais c'est un homme réaliste, un homme de compromis raisonnable, basé sur l'intégrité de principes fondamentaux. Ça, c'était Claude Ryan.
J'allais dire, il y a une chose, par contre, qui vaut la peine, je pense que ça vaut la peine de noter. À l'époque du débat sur la langue, il est entendu par tous qu'il fallait une démonstration empirique de la nécessité de faire cette loi qui venait restreindre les libertés. Ça, et après ça, les gens ont débattu. Il me semble que ça vaut la peine. Tout le monde s'entendait là-dessus. L'autre chose que M. Ryan, je pense, comprenait instinctivement, et que les Québécois comprennent, je pense, instinctivement, c'est ceci. Nous sommes, nous, une minorité, à la fois à l'intérieur du Canada, mais aussi à l'intérieur, en Amérique du Nord. On n'est pas les seuls. Et il est quand même important pour nous de comprendre qu'il est difficile pour nous de plaider notre différence, de même la célébrer auprès des autres, dire nous, nous croyons à cette différence, nous voulons qu'elle soit reconnue, nous voulons qu'elle soit, et que, en parallèle à ça, on dise à ceux avec qui nous vivons, votre différence, on ne l'accepte pas dans votre cas, vous. Pourquoi la société québécoise est tolérante ou paraît-elle plus tolérante sur certains enjeux comme l'orientation sexuelle que d'autres sociétés? Ce n'est pas que les Québécois sont plus vertueux que les autres, je pense. Moi, ce que j'ai observé, c'est que les Québécois d'instinct savent par rapport à leur histoire et à qui ils sont, qu'ils ont un intérêt à cette ouverture, cette tolérance, parce qu'ils la demanderont pour eux. Ils l'exigent pour être qui ils sont. Alors, ça m'a toujours paru être le sens de ce que nous faisions comme société.
Et pourtant, actuellement, on n'a pas l'impression que, en tout cas, on a l'impression qu'une partie de la population, en tout cas, qui n'est pas très tolérante, disons.
Et les libertés, ça compte quand? C'est quand l'autre est différent de nous, là. La tolérance, c'est pas toujours, on n'aime pas toujours ce que l'autre nous présente. Mais vivre dans une société qui est riche de ces, c'est de vivre dans une société où on accepte et on cultive ce sentiment d'acceptation de la différence de l'autre au lieu de faire le contraire. Parce que politiquement, on a le choix. On peut encourager les gens à vivre dans un esprit de tolérance et d'acceptation ou on peut faire le contraire. Et on peut faire le contraire, sauf qu'à mon avis, faire le contraire va justement dans le sens, pour reprendre le même mot, contraire de l'histoire du Québec et de nos intérêts. Et comme société, c'est contraire à nos intérêts les plus profonds, les plus enracinés des Québécois.
Avant de prendre vos questions, je pense qu'il y en a quelques-unes. Les gens n'ont pas de questions, c'est trop intéressant. Oui. Peut-être pour terminer avec ça, mais parce que c'est un sujet d'actualité auquel M. Ryan a beaucoup pensé aussi, qui est la réforme du Sénat. À l'époque, on parlait de Chambre des provinces, Chambre de la Fédération et tout ça. M. Charest, vous avez dit récemment dans une entrevue que l'abolition du Sénat serait une très mauvaise idée. C'est intéressant que vous expliquiez un peu pourquoi, parce que je pense que pour beaucoup de gens, compte tenu de tout ce qu'on entend, la solution la plus simple, ça serait de s'en débarrasser.
Voilà un bon exemple de ce que c'est quand on fait de la politique. Je pense qu'on croit un certain nombre d'idées puis des principes. Le Sénat, puis notre système fédéral de gouvernement, incluant le Sénat, ça fait partie du pacte fédératif et des équilibres politiques que nous avons à l'intérieur de notre système fédéral. C'est une chambre qui avait été créée initialement pour qu'il y ait une représentation des régions et des provinces. Or, on est dans un environnement où, à cause d'histoire, on va se dire franchement, de compte de dépenses. C'est une histoire de compte de dépenses. C'est pas anodin, mais c'est important, mais c'est une affaire de compte de dépenses. On dit on va scraper, on va abolir le Sénat canadien. Tu sais, y a-t-il une entreprise où il y a une affaire de compte de dépenses pour dire bon, on va fermer l'entreprise, tu sais. On va, ça arrive pas. Dans les discussions que j'ai eues, moi, avec le fédéral, je peux vous dire, André, j'ai toujours dit très clairement au fédéral que vous n'allez pas altérer le Sénat ou changer le Sénat sans que le Québec y consente. Même si l'opinion publique va totalement dans le contraire, je sais, ma responsabilité comme premier ministre du Québec, c'est de vous dire que notre intérêt fondamental à nous n'est pas de brader les intérêts du Québec sur l'autel du populisme d'aujourd'hui, parce que dans l'actualité, il y a un sénateur qui a triché sur un compte de dépenses, et de dire ce que les gens veulent entendre. Moi, ma job comme premier ministre du Québec, c'est de défendre fondamentalement nos intérêts à nous. Alors, l'idée d'aller dire, on va consentir à l'abolition du Sénat. Que le Bloc québécois dise ça, en passant, c'était leur position, m'a toujours renversé. Ça m'a renversé. Mais c'est le prix à payer pour le populisme. Alors, moi, je sais que c'est pas populaire de dire. Allez faire un sondage, là, la majorité des gens vont vous dire « Scrapez-moi ça, le Sénat, c'est plus bon, mettez-moi là à la porte. » C'est une grave erreur. Ce serait une erreur fondamentale. On ferait un sondage dans la salle ici. Non, on n'en fera pas. Et c'est ça que les gens vous diraient. Mais il faut qu'un homme ou une femme politique soit capable de se lever dans ces circonstances-là puis dire les choses qui donnaient les bonnes réponses. Et des réponses fondées sur des principes.
Monsieur Mulroney, est-ce qu'on peut faire des choses pour améliorer la crédibilité du Sénat?
Eh bien, moi, je vous parlerai avec la responsabilité, peut-être même la culpabilité, de quelqu'un qui a nommé 59 sénateurs. Tout le Sénat. Alors, j'en sais quelque chose là-dedans. Mais, écoutez, on a parlé de M. Ryan, du Domitch, avant. Je vais vous donner un exemple classique. Les Anglais disent, you're going to throw out the baby with the bathwater. Oui, mais c'est ça qui est arrivé avec Meech. La formule que j'ai employée à Meech, où les sénateurs dorénavant seraient nommés à même une liste produite par le gouvernement provincial, libéral, conservateur, néo-démocrate, whatever, les meilleurs citoyens de la province. Alors, après Meech, j'ai accepté avec Robert Bourassa d'employer la formule, d'utiliser la formule, même si Meech n'avait pas été entériné complètement à ce moment-là. Et ça avait donné quoi comme sénateur? Claude Castonguay, Chapu-Roland, des gens de cette haute Dr. Paul Dorine. C'était des vedettes du Québec. Roch Bolduc.
M. Poitras?
Oui, M. Poitras également. Alors, les meilleurs du Québec ont choisi. Parce que Robert Bourassa me présentait une liste de 5 personnes. Il savait que s'il y avait des poteaux là-dessus, ça ne passera pas. Et de notre côté, on était soulagés de l'obligation de nommer des bagmen conservateurs et des chums de Bécomo. Alors, les chums n'ont pas aimé ça. Mais non, mais la réalité, c'est que...
Oui,
c'est ça, oui. Alors, on a eu une qualité extraordinaire de sénateur en suivant cette formule-là, qui avait été répudiée avec la... Jean a raison, même d'ailleurs, si quelqu'un voulait abolir le Sénat demain, à moins qu'il y ait l'approbation de l'Assemblée nationale là-dessus, ça ne marchera pas. Alors on perd notre temps là-dedans. Mais il y a des façons de l'améliorer à l'intérieur. Puis je viens de vous en donner une formule qui aurait pu, avec le temps, regardez l'affaire de Justin Trudeau, où il parle des nominations non partisanes, suggéré par l'Ordre du Canada, etc. L'idée est bien. L'idée n'est pas mauvaise. Mais il y a une meilleure formule, et c'est celle de Meech, où si le gouvernement canadien acceptait demain d'accepter des nominations, des suggestions, pas obligé de les nommer, mais des suggestions, les meilleures suggestions du Manitoba, de la Colombie-Britannique, etc., on verra un Sénat transformé. Est beaucoup plus transparent et responsable. Mais je partage la philosophie de Jean, l'opinion de Jean, la réalité. Puis, à part de ça, la réalité, c'est avec 1982, avec la formule d'amendement de M. Trudeau, on est pris comme otage là-dedans. On ne peut pas amender cette affaire-là. Après que M. Trudeau a eu son plaisir là-dedans, il a dit « Je ferme la porte pour les autres ». C'est ça qui est arrivé avec la formule d'amendement.
On est non-partisans,
déjà. Oui, c'est ça. Complètement.
Vous,
avez vraiment pas la bonne cravate aujourd'hui, là, c'est pas...
Non, je vais voir que je change de cravate.
une question qui vient de la salle, gênez-vous pas, il reste quelques minutes. Oui, c'est une grosse question, ça. En tout cas, je sais pas comment vous allez vous en sortir. Quelles sont les grandes tendances des systèmes fédéralistes dans le monde et l'influence qu'elles peuvent avoir sur le Canada? Oh, question difficile, mais peut-être qu'on peut parler de l'Europe.
Commençons avec l'Europe, parce que c'est fascinant en Europe à quel point ils se questionnent évidemment sur leur avenir, et l'Europe va continuer, l'euro va continuer. Mais moi, j'ai fait un discours dernièrement sur au Churchill Society. J'ai retracé un texte de Churchill en 1946, un discours qu'il fait à Zurich, où il dit que l'avenir de l'Europe, c'est le système fédéral. Je voyais un texte cette semaine de Jean Monnet, qui est un des grands fondateurs de l'Europe, un penseur de l'Europe. Il y a une chaire Jean Monnet à l'Université de Montréal, d'ailleurs, qui voyait dans l'avenir de l'Europe une Europe fédérale. Et donc, l'idée du fédéralisme, je pense, aujourd'hui, est soulevée dans beaucoup de pays où ils se questionnent également sur leur structure et leur avenir. Le Canada, c'est une des fédérations les plus décentralisées au monde. Les provinces ont des pouvoirs qui sont équivalents de bien des États souverains. Il s'agit de les exercer, comme on le fait, nous, au plan international. Il s'agit juste d'aller le faire. Et l'avantage du fédéral et d'un système fédéral pour le Québec en particulier, c'est que ça nous permet de mettre en commun nos ressources avec des voisins, parce que l'avenir est ensemble plus grand. Alors, le fédéralisme est voué à un très bel avenir, André, et il s'agit de le comprendre et de l'appliquer correctement. Une des frustrations que j'ai eues, moi, c'est que chez les fédéralistes qui étaient au gouvernement, des fois, pas tout le temps, ils étaient moins fédéralistes que je l'étais, moi, à Québec. Aussi bizarre que ça puisse paraître, là, ils appliquaient... Maintenant, cela étant dit, juste un commentaire sur ces débats-là, parce qu'il nous arrive de croiser des gens qui nous disent « Lui, je l'aime pas, il est premier ministre. » C'est jamais arrivé à vous, ni à moi. Non. Mais je l'aime pas, lui, il est premier ministre. Mais, tu sais, en France, par exemple, il paraît-il, M. Hollande n'est pas très élevé dans les sondages. Mais y a-t-il un Français qui dit « On va démanteler le pays? » Y a-t-il quelqu'un en Allemagne qui dit « J'aime pas Angela Merkel, on va démanteler l'Allemagne? » Mais vous allez trouver des gens qui, au Canada, ou des gens chez certains souverainistes, qui vont dire « Bon, on n'aime pas lui comme premier ministre, on n'aime pas telle chose, démantelons le pays. » Franchement, le débat en vaut plus que ça. Et le système fédéral, tant qu'à moi, est un système qui répond très bien aux aspirations du Québec.
Une autre chose que vous dites dans vos mémoires au sujet de Claude Ryan, c'est on remonte à loin quand même, mais pendant la crise d'octobre, où M. Ryan se faisait le défenseur d'une méthode, je dirais, plus douce que celle que M. Trudeau avait employée. Et il y a eu à ce moment-là une espèce de rumeur que Claude Ryan était au cœur de la conception d'un gouvernement parallèle et puis qu'il était en train de comploter contre M. Bourassa, etc. Vous dites dans votre livre que cette histoire-là était complètement fantaisiste, que ça ne se tenait pas.
Oui, c'est une fausseté totale. C'était... c'est épouvantable ce qu'ils ont fait là. La réalité, c'est que moi, j'avais supporté personnellement la loi des mesures de guerre en me basant sur les renseignements donnés par M. Trudeau et M. Turner. Alors moi, j'ai cru ça dur comme affaire et j'ai endossé. J'ai encouragé M. Stanfield à le faire, ce qui est évidemment une décision, ce qu'il a fait, une décision que M. Stanfield a regrettée jusqu'à la fin de ses jours. C'est moi qui étais un de ses conseillers. En 1960, à ce moment-là, j'étais vice-président du conseil, vice-président de la campagne électorale pour les conservateurs au Québec. Alors, j'étais en communication constante avec M. Ryan parce que il tenait à rester en communication avec tout le monde, pour savoir ce qui se passait. Il aimait bien M. Stanfield également. Il voulait l'encourager ou recevoir, partager ses opinions, etc. Ben oui, alors qu'arrive octobre 70, alors j'étais, et j'ai endossé activement les décisions courageuses de M. Bourassa, il venait d'arriver au pouvoir. Est confronté par des meurtres, puis la violence extraordinaire. Alors, il s'est très bien comporté. j'allais donc au fédéral. J'avais endossé, personnellement, j'avais pas d'influence, rien, mais je vous parle de ma réaction personnelle. Et là, wow, à un moment donné, on entend parler au Canada anglais que there's a parallel government and Claude Ryan and Louis Laberge are pushing this idea to displace the Bourassa government and they're going to take over. And I said, Christ, this is nuts. Who puts this out? Alors, j'en avais parlé à Ryan à ce moment-là longuement, puis à plusieurs occasions. Alors, tout le monde avait ses propres soupçons, mais c'est juste avec la publication de la biographie de Peter C. Newman à Toronto, plusieurs années après, qu'on a appris que Newman se dit textuellement qu'il a été convoqué par la haute direction libérale à Ottawa, du gouvernement, puis s'est fait dire par M. Trudeau lui-même et Marc Lalonde que Claude Ryan avait patenté cette affaire-là et qu'il y avait un gouvernement parallèle et « Would you please publish it in the Toronto Star? » Alors Newman dit, dans son livre, je l'ai publié, mais à son crédit, je dois vous dire qu'il était conservateur, il était prudent dans ses affirmations. Mais ça a pris naissance avec un but, dans le but de, je pensais, soit de démolir ou de minimiser l'influence et les réalisations énormes de Claude Ryan au Québec. Et on savait qu'il y avait quand même un vote populaire très fort pour Ryan ailleurs au Canada anglais. Je l'ai mentionné plus tôt. Il était très bien vu et très bien respecté par les provinces anglaises. À un moment donné, wow, Claude Ryan is organizing a putsch contre Robert Bourassa. Alors, c'était une fausseté totale. C'est venu d'en haut à Ottawa. Et au crédit de Ryan, il ne l'a jamais accepté, il ne l'a jamais avalé non plus. Mais il n'a jamais fait un drame personnel, contrairement à ce que j'aurais fait personnellement. Mais vous connaissez mes limitations. Alors, c'est ça qui est arrivé. J'ai trouvé ça pénible et difficile pour lui. Mais la façon qu'il a répondu à tout ça, c'est comme d'habitude, tout à son honneur.
Messieurs, il y a déjà 2 heures, on continuerait longtemps évidemment, mais bon, tout le monde doit sortir de la tempête. Je vous remercie beaucoup, je pense que cette rencontre-là, de même que tout le colloque et votre présence, indique bien l'héritage, l'ampleur de l'héritage de M. Ryan. Merci.
Merci beaucoup, André Pat, à nos invités. Merci à tous ceux qui ont assisté à cet événement. Et je signale pour les médias que M. Mulroney et M. Charest ne donneront pas d'entrevue. Et je signale également pour les médias que M. Couillard va rencontrer les journalistes dans le hall d'entrée de l'hôtel en bas.